17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
Oui, et le grand témoin aujourd'hui, ce sont deux arts, deux matières, la psychologie et la psychanalyse, qui longtemps ont été des ennemis jurés, hein, que quelqu'un a voulu réconcilier. Cette personne, c'est Hervé Madet. Bonjour Hervé, merci d'être là. Et vous êtes en compagnie d'Edoui Gentier, qu'on a l'honneur d'accueillir, qui est pédiatre, qui va nous accompagner lors de cette émission. Alors, en exergue la formidable histoire de la psychologie, on lit que l'étude de la psyché plonge ses racines dans le chamanisme et la philosophie grecque. Elle se poursuit avec les exorcistes du Moyen-Âge et de l'hypnose. Et aujourd'hui, elle se nourrit de la psychologie scientifique, des neurosciences et suscite le boom du développement personnel. Et dès l'Antiquité, face à la folie et à ses désordres, on trouve deux tendances qui s'opposent, à la fois agir sur le corps avec la médecine et agir sur l'esprit avec la psychothérapie. Alors, vous, Hervé Madet, vous avez décidé de créer une école pour essayer de mettre un peu tout le monde d'accord, c'est ça?
C'est un peu ça, ça date de 23 ans maintenant. L'idée, c'était de rendre accessible la psychologie au plus grand nombre. Et donc, y a un certain nombre de formations. Aujourd'hui, on est une faculté privée, la plus importante de France, avec des enseignements à la fois à distance et en présentiel. Et puis, une spécialité qui a émergé aussi en fonction des besoins et des demandes, quoi.
Quand on dit que la psychanalyse, c'est un peu l'enfant pauvre de la médecine, et puis la psychologie, c'est encore pire que l'enfant pauvre, comment vous accueillez ça? Parce qu'en amont, comme ça, très très loin, il y a le mot charlatanisme qui apparaît. C'est quoi la psycho, tout ça? Donc, elle a quand même son cortège, ses boulets qu'elle a traîné très très longtemps avant d'avoir les lettres de noblesse qu'elle a aujourd'hui. Et vous, comment vous avez fait ce chemin?
Au départ, l'image souffre un peu d'un manque de rigueur, peut-être. C'est-à-dire qu'on a tendance à sortir la psychanalyse des sciences. Sauf qu'aujourd'hui, il y a une sorte de démenti à apporter à ça, parce que les neurosciences nous apportent des preuves tous les jours de la rigueur, finalement, de cette méthodologie et de cette étude de la psyché.
Alors, j'ai vu, on va parler un peu de votre école et des différentes thématiques, des séminaires, etc. Mais j'ai pas vu le microbiote quelque part. C'est normal?
C'est en cours. Ça va sortir.
Donc, c'est une lacune que vous allez réparer bientôt.
Mais il y a toujours des choses à améliorer.
D'accord. Alors, vous avez créé une e-faculté de psychologie et de psychanalyse. C'est-à-dire que vous avez tiré les enseignements du Covid. Vous pensez que maintenant, tout doit passer par le E, par Internet, par la visio. C'est très, très présent dans votre école.
Ouais, mais en même temps, on laisse le choix aux étudiants de venir en présentiel ou d'être à distance.
Vous avez l'assiduité au rendez-vous? Les gens sont assidus?
La majorité des étudiants sont en distance, quand même. Faut reconnaître. Et effectivement, le Covid a mis un coup d'accélérateur à ce mouvement qui était déjà en marche.
Parce que quand même, là, il y a un petit défi, parce que quand on parle de psychologie, de psychanalyse, de psychiatrie, etc., on parle de deux êtres ou trois êtres, enfin des gens qui sont face à face, qui se parlent. Et là, vous mettez carrément Internet au milieu.
Ouais, avec quand même une technologie de pointe. Hein, c'est évidemment pas comme si on était l'un en face de l'autre. Mais on s'en approche quand même, hein. On s'en approche, et avec des résultats corrects, je dirais.
Alors, votre école, vous vous engagez directement dans des formations d'excellence, bien sûr, vous racontez, hein, dans votre plaquette que vous avez 12 formateurs certifiés avec plus de 300 étudiants, etc. Mais ce qui m'intéresse, c'est la certification. Alors, vous nous parlez d'une certification Calliope, ça veut dire quoi ?
Calliope, c'est un organisme national qui certifie les organismes de formation. Il y a beaucoup de rigueur. On est audité tous les 18 mois. Donc il y a vraiment un protocole très, 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 très sérieux. Ça a fait un petit peu, entre guillemets, le ménage dans toutes les structures de formation qu'il y avait auparavant. Donc aujourd'hui, c'est devenu une référence. Voilà.
Et quels sont vos rapports avec la tutelle, par exemple, avec le rectorat, avec les universités, avec, avec le ministère ? Est-ce que vous êtes adoubé ? Est-ce que vous êtes, vous avez des contrats, comme on peut imaginer, par exemple, les écoles privées qui sont sous contrat avec l'éducation nationale, etc. Comment ça se passe, votre relation, un, avec le rectorat, deux, avec les universités, et trois, avec le ministère ?
On a trois partenariats avec les universités. L'université de Bordeaux, d'Aix-en-Provence et de Lyon, dans des disciplines diverses. Mais voilà, c'est, je pense que c'est un gage de légitimité supplémentaire pour nous.
Partenaire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils vous valident les diplômes d'université, c'est ça ?
Alors, pour Bordeaux, c'est une formation qu'on va faire en commun, hein, sur la psychocriminologie, hein, par exemple. Sur Lyon, c'est une formation également qu'on fait en commun qui allie religion et psychologie. Donc ça, c'est peut-être en lien avec l'entame de la discussion.
Oui, oui, on va y revenir d'ailleurs. Hein, on va revenir là-dessus. Et donc, il y a quelque chose que j'ai regardé. Vous êtes versé dans la cybercriminalité. Alors, vous en avez un, je crois, avec Bordeaux ou Lyon, je ne sais
plus.
Bordeaux, et puis aussi à Dubaï. Oui. Vous êtes aussi à Dubaï, donc ouais. Vous êtes développé à l'extérieur. Quel rôle a la cybercriminalité dans la psychologie, la psychanalyse, la psychiatrie ? Expliquez-nous un peu le cheminement.
Je crois qu'il n'y a aucun domaine qui échappe à une étude psychologique, aussi bien de ce qui se passe, que ce soit du côté de la protection, que ce soit du côté de la criminalité, quoi. Donc c'est un domaine qui nous a intéressés. Et avec Bordeaux, on met en place ce diplôme universitaire.
Alors, dans la cybercriminalité, qui sont les victimes ? Ce sont les opérateurs, les entreprises, les banques, les hôpitaux.
Auparavant.
Comment vous agissez, vous, ouais, en tant qu'école de formation, et puis même en tant que thérapeute, mais comment vous agissez ?
Auparavant, ça ne concernait que les grosses structures. Aujourd'hui, de la plus petite à la plus grande, tout le monde est concerné. L'entreprise du coin, qui a une société en plomberie, peut être.
Alors, racontez-nous le cheminement. Une petite entreprise du coin, en plomberie, comment ça se passe ? Allez-y.
Ben, du jour au lendemain, elle peut. Mais peut-être que Stéphane pourrait nous en parler mieux de ça.
Mais, j'ai oublié Stéphane. Je ne sais pas si le micro est branché pour Stéphane. On va le brancher ? C'est bon ?
Parce que c'est un peu sa spécialité.
Oui, bonjour. Pour répondre à votre question, effectivement, en fait, on n'est pas obligé d'être un grand groupe ou une grande entreprise pour être victime de cyber. Souvent, c'est pas forcément l'entreprise qui est ciblée, c'est plus les données qu'elle recueille. Donc, par exemple, un responsable, un DSI qui est un responsable informatique d'une petite structure, qui a des clients qui ont des grands comptes, là, à ce moment-là, cette entreprise va sûrement être souvent hackée pour récupérer les données de ce grand compte qui, lui, potentiellement, par la suite...
Ça, en général, on le comprend. Mmh. Mais qui a besoin de la psychologie ? Qui a besoin du soutien psychologique ? C'est l'ingénieur, l'informaticien qui est devant sa machine ? C'est qui ?
Bah, c'est un ensemble de choses, parce qu'un responsable de DSI, quand il a son client qui l'appelle en lui disant « j'ai un code qui affiche sur mon écran et que je ne peux plus travailler », et que quand on lui apprend qu'il s'est fait hacker et que du coup il est en train de perdre sa structure, là il faut un accueil psychologique pour qu'il puisse gérer ça, parce qu'il n'est pas habitué à gérer ce genre de problématiques.
Parce que quoi ? Parce qu'il pense qu'il a mal fait, il pense que...
Alors c'est la première...
Il n'a pas assez protégé ses données. C'est...
Alors déjà, c'est la première des choses, il dit que c'est de sa faute, alors qu'aujourd'hui...
Donc la culpabilité.
Ouais, il y a une grosse culpabilité.
Il faut le dégager de cette culpabilité.
Tout à fait.
En disant que c'est une agression extérieure.
Et après, la deuxième chose, c'est de se dire comment je vais gérer ça vis-à-vis de quand j'ai des salariés, vis-à-vis quand j'ai des partenaires, pour leur expliquer que leurs données, elles sont devenues publiques, que c'est pas forcément de ma faute, effectivement, donc la culpabilité, et la cyber amène là aussi. Et après, il y a la victime en elle-même. C'est-à-dire que la personne qui s'est fait retrouver ses données sur Internet, où son image va être publique, il va falloir l'accompagner aussi pour qu'on puisse lui dire c'est pas de ta faute non plus, et voilà comment se protéger, et ainsi de suite.
D'accord. Alors, un grand écart, il y a aussi donc de la cybercriminalité à l'aide à la parentalité, et j'en profite pour poser une question à Louis Gentier. Vous êtes pédiatre et vous êtes On vous connaît aussi à la radio, vous êtes déjà venu, et puis vous avez aussi essaimé tous les grands médias, de Radio France à d'autres, et bienvenue. Et vous êtes aussi dans l'école d'Hervé, donc vous travaillez dans l'aide à la parentalité, donc ça concerne tous les publics, et donc dans un instant, vous allez nous raconter pourquoi on a besoin d'aide à la parentalité. Moi, j'avais l'impression qu'on n'avait pas besoin du tout d'aide pour ce genre de choses. Donc, dans un instant, vous nous expliquez.
Les grands témoins reviennent dans un instant. Beurre FM, 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan.
Oui, les grands témoins aujourd'hui, c'est une école de formation en psychologie et en psychanalyse et d'autres choses. On parlait à l'instant avec Hervé Madet et Louis Gentier de la cybercriminalité. Et Louis Gentier, vous travaillez sur l'aide à la parentalité, entre autres, il n'y a pas que ça, vous êtes pédiatre, et vous voulez rajouter un mot sur la cybercriminalité, notamment dans le cas de la pédophilie.
Oui, parce que j'ai eu la chance, grâce à la faculté de psychologie, d'aller assister à un séminaire sur la pédocriminalité, comment des policiers, des psychologues spécialisés traquent les pédocriminels. Et ce qui m'a beaucoup intéressée, et ce que j'essaie maintenant de transmettre, c'est la méthode pour écouter les enfants victimes d'un pédophile. Et souvent, on peut abîmer leurs paroles, la tordre par manque de méthode. Et donc, il y a une méthode qui est très bien structurée pour ces enfants. Donc, c'est très important, cette branche de pédocriminalité dans la faculté.
Oui, et quand on sait la douleur et les difficultés qu'ont les enfants à parler, parce qu'ils sont souvent le lieu d'un secret, on leur demande de tenir le secret parce qu'on connaît ça, et quand on connaît la douleur ensuite du coming out et de la révélation, c'est très compliqué, et pour ne pas parler aussi de certaines simulations où on a voulu se venger sur telle ou telle personne de la famille et on l'accuse d'eux. Donc c'est très compliqué tout ça. C'est très mélangé.
Et il faut être vraiment formé à l'écoute de la parole de l'enfant.
C'est ça.
Et j'essaie d'y contribuer.
On peut pas livrer l'enfant à n'importe qui, et vous avez bien raison. Vous êtes pédiatre, et donc dans le cadre de l'école que Hervé Madet a construit, maintenant depuis 20 ans, ça fait un bon moment, vous êtes versé, entre autres, dans l'aide à la parentalité. Alors, expliquez-nous ce que c'est qu'une aide à la parentalité.
Eh bien, c'est aider les parents à savoir connaître les besoins de leur enfant. Vous savez, moi, je dis, on parle beaucoup aujourd'hui de parentalité bienveillante, positive, ou à l'inverse, de mettre un cadre, d'un manque d'autorité. Tout le monde s'entrechoque sur ce sujet. Est-ce qu'il faut être sévère? Est-ce qu'il faut être bienveillant? Est-ce que les parents laissent tout faire? Ou est-ce qu'au contraire, les parents frappent leur enfant? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ils sont perdus, les parents. Vous mettez au milieu de tout ça les tablettes et les téléphones pour les jeunes enfants très tôt et puis les ados. Les parents sont perdus. Donc, ils ont besoin d'être aidés. Ce que d'ailleurs...
Aider, ça veut dire quoi? Parce qu'ils sont désarmés et il faut leur donner des armes. Ça veut dire quoi, les aider?
Il faut leur donner du savoir. Moi, personnellement, je suis une pédiatre, donc médecin, donc scientifique. J'ai de grandes connaissances en neurosciences. Et les neurosciences ont énormément apporté pour comprendre le développement de l'enfant, le développement de ses émotions, comment il réagit, pourquoi il se met en colère, de ses fonctions cognitives. Nous avons maintenant des outils extraordinaires. Et puis, en plus, je suis d'expérience, puisque j'ai deux générations de patients derrière moi. Donc, je les vois grandir, je continue d'exercer, donc je vois les enfants de mes enfants. Donc, j'amène à la fois la science et l'expérience pour montrer aux parents quels sont les besoins de leur enfant. Moi, je dis positif, bienveillant, mettre un cadre. Non, surtout, d'abord connaître les besoins de l'enfant. Quand on connaît les besoins de l'enfant, qu'il soit bébé ou qu'il soit plus grand, et qu'on y répond, eh bien l'enfant se développe, il s'épanouit comme une fleur, il développe ses fonctions cognitives, il devient bon à l'école, content d'apprendre, et il a une bonne relation avec ses parents. Mais pour ça, Pour l'aide à la parentalité, je donne 12 cours qui sont très développés depuis la conception jusqu'à l'adolescence pour montrer les besoins des enfants.
Alors, il faut les respecter. Il y a les besoins, bien sûr, mais est-ce que ce n'est pas aussi les talents, les capacités qu'a l'enfant, innées ou acquises? Est-ce que, parce que c'est souvent ça aussi, parce que les capacités de l'enfant sont étouffées ou cachées par des choses plus triviales, hein, plus terre à terre.
Comme vous avez raison. Je suis, vous savez, une élève de Françoise Zolto. Elle avait préfacé mon premier livre et puis ensuite j'ai pris sa suite avec Jacques Pradel sur France Inter. Et franchement, elle disait des mots extraordinaires. Par exemple, elle disait « Un enfant est toujours bon en quelque chose ». C'est ce que vous venez d'exprimer. Donc, aider les parents à respecter ce en quoi l'enfant est bon et à ne pas se laisser écraser par un système sociétal ou scolaire qui parfois va enlever à l'enfant tout ce qui est lumineux en lui. Donc c'est vraiment très intéressant. Un détail, je voyais là des images d'IRM qu'a fait une maman elle-même scientifique avec son bébé. Elle a le bébé dans les bras et on voit dans le cerveau du bébé les zones qui s'allument quand elle lui parle, quand elle le porte, quand elle lui raconte une histoire. Alors pour ceux qui vont dire tu le portes trop, t'es fusionnel, tu vas le rendre... J'essaie de redonner confiance aux parents pour qu'ils aient de l'admiration pour ce petit homme universel, penser qu'il est, il est codé pour transmettre, pour exprimer les émotions dès la vie in utero, que ce soit un petit papou ou que ce soit un petit norvégien, ce sont les mêmes expressions et les enfants se reconnaissent entre eux. Et ça, c'est magnifique. Et quand les parents ainsi admirent leur enfant, ils sont portés à faire vraiment, à ne pas faire d'erreur et à pas écouter la voisine qui dit tu devrais, si tu commences comme ça, tu vas voir à l'adolescence. Ça, c'est des paroles qui m'horrifient.
Et là, vous mettez le doigt sur quelque chose de très important, c'est l'aspect comportemental qui est la vraie boussole, en fait.
C'est ça.
Le comportement, c'est un peu la boussole de la relation parent-enfant.
C'est ça.
Et même après.
Et vous savez, le secrétaire d'État à l'enfance du précédent gouvernement, qui s'appelait Adrien Taquet, a créé un concept que les parents ils connaissent le mot. C'est le concept des 1000 jours. Et il veut que nous développions des maisons des 1000 jours, justement, où se délivrera cette aide à la parentalité, où les mamans, les papas, les grands-mères pourront venir, les nounous, pourront venir partager leur expérience, avoir des conseils avec des personnes qui seront formées à aider les parents. C'est le projet de l'aide à la parentalité que je développe et qui a beaucoup de succès. On voit la demande très importante.
Alors Hervé Madet, avec Edoui Gentier, on vient d'avoir un aperçu de gens qui sont chez vous en tant qu'experts, en tant que formateurs. Et moi, j'ai retenu, par exemple, Edgar Morin, qui est là, qu'on ne présente plus, Boris Cyrulnik, hein, qui est archi connu, Edoui fait partie du lot, et Stéphane Gaudry. Il y a même des médecins réanimateurs, il y a des médecins pédiatres, elle en est la preuve. Et puis, donc, tout ça se réunit dans un comité scientifique. Vous avez eu peur qu'on vous traite de charlatan si vous n'étiez pas entouré par des gens comme ça? Vous avez voulu dire quoi en vous entourant de gens aussi prestigieux?
Je pensais que avoir un comité scientifique de cette envergure-là, ça serait une chose positive pour l'école. Ce sont des gens qui nous supervisent, qui ont un œil sur nos programmes, sur nos formations.
C'est un peu votre label, quoi.
C'est ça.
Un peu votre... Alors, dans votre école, on a parlé de formateurs, vous avez, je crois, une vingtaine de formateurs.
Oui.
Hein, et vous avez à la fois les cours en visioconférence et vous avez ce qu'on appelle les regroupements. Mm-hmm. J'ai vu un peu les images, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Comment vous créez une relation sociale avec tous ces étudiants?
Mon regroupement, effectivement, l'idée de départ, c'était que le distanciel ne suffirait pas. Et je pense qu'il fallait pouvoir regrouper tout ce monde-là au moins de temps en temps. Donc, et c'est là aussi qu'on a un partenariat avec les facultés, notamment d'Aix, d'Aix-en-Provence. Donc on se retrouve dans un amphithéâtre. Donc effectivement, il y a des centaines d'étudiants, puisqu'aujourd'hui on a plus de 3000 étudiants au total, que ce soit en France ou dans le monde entier d'ailleurs. Et ces regroupements, c'est aussi l'occasion de faire venir certaines personnes de notre comité scientifique, de les faire intervenir. Et ça a vraiment un succès important. Quoi.
Et d'ailleurs, les élèves... nous pose des cas parfois que je profite, et d'autres le font, pour illustrer sous forme de cas pratiques. Donc il pose une question, on va prendre cette question pour la développer dans un cas pratique qu'il retrouve après sur le site, mais dont on peut parler lors d'un regroupement. On fait aussi un petit salon du livre où les auteurs de psychologie, de pédiatrie, de médecine viennent dédicacer, signer. Donc oui, on parle quand même beaucoup, heureusement.
On se retrouve dans un instant et on va entrer un petit peu dans les thématiques et on en parle tout de suite dans Les Grands Témoins.
Les Grands Témoins reviennent aux amis. Beurre FM, 17h, 18h, Les Grands Témoins avec Nasser Khétan.
Toujours avec Hervé Madet et Louis Gentier de l'école de la faculté de psychologie et de psychanalyse. Déjà une petite question, Hervé. Les étudiants qui viennent, ils viennent comment? Ils sont recrutés comment? Ils sont de quelle filière? Ça se passe comment?
Dans l'ensemble, c'est plutôt des personnes qui sont en reconversion professionnelle. Qui nous contactent parce que maintenant on a une visibilité importante, une réputation même aussi, hein. Donc ce sont des gens qui sont en général depuis un certain temps intéressés par la psychologie et la psychanalyse, et puis qui se disent j'ai envie de me reconvertir et d'en faire une activité professionnelle, quoi.
Quand il y a des débouchés professionnels en général, est-ce que vous avez un recul des gens qui sont venus chez vous?
Alors, sur les 3000 étudiants qu'on a, qui au départ, pour une majorité, ont un projet professionnel, en cours de route, ça peut évoluer. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui, de façon inconsciente, viennent là pour avoir des réponses personnelles, en fait.
Bien sûr.
En cours de route, les projets professionnels peuvent passer des fois au second plan. Sinon, pour les autres, c'est l'ouverture d'un cabinet de psychologie.
Est-ce qu'il faut payer? Est-ce qu'ils payent des choses? Parce que j'ai vu que Pôle emploi prenait en charge certaines de vos formations. Mais alors pour les étudiants, est-ce qu'ils doivent payer quelque chose? Comment ça se passe?
Oui, alors il y a Pôle emploi qui prend une partie des formations. C'est très aléatoire, donc ça c'est quelque chose qu'on n'a pas encore bien cerné le problème, parce que d'une agence à l'autre, ça peut être très très variable. Mais bon, effectivement, on a un certain nombre de formations qui sont financées par Pôle emploi, notamment, on en parlait tout à l'heure, grâce à cette qualification Calliope qui est un gage de sérieux et de qualité. Comme organisme de formation.
Une formation chez vous, ça coûte combien l'année?
Ça coûte 128 euros par mois.
Bon, c'est pas énorme, hein. Quand on connaît le coût des formations pendant d'autres disciplines.
Ça rejoint un peu l'idée qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que j'avais envie de rendre accessible au plus grand nombre le domaine de la psychologie, de la psychanalyse et maintenant de la parentalité.
Alors, on vit dans un monde qui est en bouleversement complet. Il y a l'inflation, il y a le chômage, il y a les guerres, il y a les réfugiés, ça explose de partout. Une grande inquiétude, hein, les poussées de xénophobie, c'est la peur de l'autre, etc. Et dans ces périodes, l'irrationnel souvent prend le dessus. Donc on voit la loterie, le loto qui monte en flèche, les sectes se développent, la fréquentation des mosquées, des églises, des synagogues augmente, on se réfugie dans la religion, etc. etc. Et donc et là, est-ce que vous pensez que votre école, ce genre de formation, peut-être une façon de mieux pacifier, entre guillemets, que de rendre plus paisible les relations avec les gens, parce que en fait, ce qu'ils ont peur, c'est de l'avenir. C'est l'avenir qui fait peur. Est-ce que vous considérez que, par exemple, vous, vous contribuez à pacifier un peu et cette peur de l'avenir et à les responsabiliser en disant que finalement, le fait que les disciplines que vous enseignez permettent de mieux prendre en charge sa vie, ses relations, et que voilà, et que on est dans un bouleversement quand même assez impressionnant.
Effectivement, la peur de l'autre est en recrudescence. Et je pense que la compréhension de soi peut donner la capacité aussi de compréhension de l'autre, et je pense atténuer aussi cette peur-là.
Parce que, bon, c'est un mystère pour personne, mais la psychologie, la psychanalyse, etc., c'est quand même ce sont des disciplines qui mettent en avant le doute, le questionnement, l'autocritique, le recul. Et face à ça, vous avez les gros trucs qui sont les religions. Donc, comment vous gérez ce face-à-face et cette conflagration, souvent, qui laisse des gens sur le carreau?
C'est pas si opposable que ça.
Mais c'est pour ça que je vous pose la question. J'aimerais que vous me parliez, parce que ça fait partie d'un de vos... d'une de vos formations, et qu'on est en plein dedans. Hein. Il suffit de regarder la télévision tous les jours, on est là-dedans.
On a donc, comme on le disait tout à l'heure, une formation qui allie psychologie et religion. On a un certain nombre de prêtres qui viennent au cours, chez nous, parce que, finalement, les deux, je ne sais pas les disciplines, mais les deux se rejoignent. Hein. Effectivement, vous parliez de besoins irrationnels tout à l'heure. C'est vrai, ça tient à l'espèce humaine, hein, au psychisme humain. Hein. Ce besoin d'irrationnel, il existe. C'est pas pour autant que la connaissance de soi ne peut pas apporter quelque chose de supplémentaire.
D'accord. Alors, une question qui s'adresse à vous trois, hein, évidemment, en permanence, on a du harcèlement scolaire, du harcèlement sexuel, on a des victimes du terrorisme, on a du féminicide, on a des viols, on a des victimes du traumatisme, que ce soit les incendies, les tremblements de terre, les tsunamis, les canicules. On a des guerres, des réfugiés, des blessés, du handicap, on a des faits divers avec des disparitions, etc. Est-ce que, peut-être Edoui, je peux répondre à ça, est-ce que la façon de répondre à tout ça, on s'y prend de la même façon, ou alors c'est le harcèlement scolaire nécessite une technique différente, les féminicides, les victimes, de, par exemple, de bombes, hein, on sait que... On sait que ça, entre autres, il y a des ulcères, il y a des choses comme ça, enfin, il y a des choses incroyables. Comment, en fonction de toutes ces thématiques, est-ce qu'il y a différentes façons de s'y prendre ou il y a un mode d'emploi unique?
Vous savez, l'unité de tout ça, en fait, c'est que, justement, c'est très important de partir du petit enfant. L'enfant, la mère, ils sont universels. Vous savez... Moi, je pense que toutes les mamans veulent le meilleur pour leur enfant. Et le meilleur, c'est la capacité de s'adapter à tous ces séismes, tous ces drames, tous ces conflits, être capable de s'adapter, lui donner toutes ses chances. Et donc, c'est universel. J'ai été invitée, ça a été passionnant, pendant une semaine, à un séminaire Parenthood, c'était aux Émirats. Et donc, nous étions à Abu Dhabi, et c'était extraordinaire. Il y avait là des gens du monde entier, des experts qui venaient des États-Unis, qui venaient du Moyen-Orient, de l'Extrême-Orient, ou, comme moi, de l'Occident. Et tous ces experts se nourrissaient, j'ai encore des contacts avec tous, parce que on échangeait entre nous. Et j'ai pu voir combien le ministre de la Santé, une jeune femme aux Émirats, avait une politique de la petite enfance qui était tellement proche de ce qu'on ressent quand on connaît un enfant. Donc, c'est vraiment universel. Et je crois que quand on a une connaissance neuroscientifique, pédiatrique, psychologique, du développement humain, on devient universel.
Alors, il y a de plus en plus de voix qui émergent pour dire, dès la petite enfance, il faut enseigner la musique, il faut enseigner le sport, il faut faire entrer les notions d'environnement, pour faire entrer les notions de bien manger, etc. Mais dès la petite enfance, vous êtes d'accord ?
Oui, mais à travers la mère. Vous savez, j'ai écrit un livre qui s'appelle Éloge des mères. Je suis toujours revenue à la mère. Je trouve que dans notre société, là, je dirais française, on a trop tendance à... Souvent avec les mamans qui me disent « Ah, il ne fait pas bien ça, ça doit être ma faute. » Ah, c'est toujours la faute des mamans. C'est ce que je dis. Donc, je ramène quand même l'enfant avec sa mère. Vous savez, Boril Cyrulnik, qui est donc venu faire beaucoup de conférences à notre faculté, eh bien, il explique que le bébé, c'est comme s'il était au milieu d'un oignon et que la première enveloppe, c'est la mère et que la deuxième enveloppe, c'est le père. La troisième, c'est les grands-parents. Moi, je rajouterai d'abord maternelle et après paternelle, parce que j'ai remarqué que l'alchimie, un bébé, tout bébé porté dans les bras, il reconnaît l'odeur de sa grand-mère maternelle, figurez-vous. Et donc, tout ça, c'est passionnant. Et toutes ces couches autour du bébé. Après, il y a la société avec toutes les aides, ces maisons des 1000 jours que nous allons développer dans la région PACA, mais aussi à Bordeaux, etc., où l'aide à la parentalité va permettre d'ouvrir les locaux aux mamans. Et donc tout ça, c'est tellement universel que c'est un message de paix. C'est un message de paix, la paix. Ah,
je rebondis sur votre message de paix. Enfin, ça veut dire que, en fait, de toute façon, nous sommes névrosés. Donc, on est l'école d'Hervé permet de mieux peut-être supporter nos névroses, d'éloigner peut-être les psychoses, et on est toujours dans la conscience, dans l'inconscience. C'est un monde fabuleux, on n'en finit pas, c'est insondable, et si on peut pacifier, comme pour reprendre votre terme à l'instant, en tout cas les relations entre les êtres humains, et avancer un peu plus vers la paix, hein, on aura chacun, comme le colibri, apporter notre petite pierre à éteindre l'incendie. Merci d'avoir été présent, Hervé.
Merci. Edoui,
merci à vous d'être présent.
Merci.
À très bientôt dans Les Grands Témoins, et on se retrouvera très bientôt pour parler de l'école de formation psychologique et psychanalyse. Merci.
Retrouvez Les Grands Témoins tous les dimanches de 17h à 18h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.